C'était long, 10 semaines. On arrive au terme d'une première section qui correspond à tout ce qui s'est passé jusqu'à l'arrivée de l'Évangile, jusqu'à ce que Jérusalem soit complètement remplie de l'Évangile, et jusqu'à ce que ce soit même pénétré dans le temple. Il y avait des prêtres qui se sont convertis. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire par rapport à l'opposition initiale qu'avait fait nombre de responsables religieux de Sanhédrin par rapport à cet évangile de Jésus-Christ. Donc, on avait commencé à l'ascension de Jésus-Christ jusqu'à Jérusalem qui était, on peut dire, évangélisée. On aurait pu appeler cette partie du livre la fondation et la croissance de l'Église de Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit-Saint. Et je voudrais qu'on revienne dessus ce matin ensemble, toute cette partie. On va refaire un petit survol des choses qui me sont étaient saillantes pour moi, au moins. Et j'espère que elles sont aussi saillantes dans le texte, que cela correspond à quelque chose qui va nous parler ce matin, ou nous faire de bons rappels. Donc je vais le faire en 4 parties. La première, 12 apôtres témoins de Jésus-Christ dans les derniers temps. 12 apôtres témoins de Jésus-Christ dans les derniers temps. Ensuite, le baptême du Saint-Esprit accordé par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Numéro 3, la croissance par la prédication de la parole de Dieu. Numéro 4, l'unité et le service face à l'opposition interne et externe. Et donc après, on fera terminer par quelques réflexions pour Philippe ici, pour ce qui nous concerne à nous, tout particulièrement. 12 apôtres témoins de Jésus-Christ dans les derniers temps. Voilà l'extrait que j'ai prévu pour illustrer ce passage. Ce titre, cette synthèse, donc vous pouvez prendre vos Bibles à un livre des Actes, bien sûr, et je vais lire du verset 4 au verset 8. Actes chapitre 1, verset 4 à 8. Aussi, il est là. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, des apôtres, des disciples, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, 12 apôtres témoins de Jésus-Christ dans les derniers temps. Vous voyez, vous avez vu comme Jésus parle ici de ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'était la question que les disciples, les apôtres se posaient quand Jésus-Christ a été ressuscité. Est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Et il leur dit non. Non, ce n'est pas à ce moment-là. Voilà le petite illustration du récit du grand salut de l'humanité, avec le parcours dans la Bible, la création, la chute de l'homme et de la femme qui a entraîné la chute de toute la création, l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ à la croix et l'accomplissement de cette rédemption. Donc au CAEF, on nous avait présenté comme une scène en six actes. Le premier acte, c'était la création. Le deuxième acte, c'était la chute. Le troisième acte, c'était l'ancienne alliance qui fait prendre conscience de l'impossibilité pour l'homme de se sauver tout seul. L'impossibilité qu'il a d'obéir à une loi, l'impossibilité, combien le péché est attaché profondément au cœur de l'homme. Une longue démonstration jusqu'à lui présenter le sauveur dont il a besoin. Il a besoin d'un Messie et de décrire tout ce que sera ce Messie jusqu'à l'acte 4, la venue de Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, on est dans l'acte 5, et c'est ici, dans le livre des actes, que va commencer l'acte 5, la propagation de l'Évangile, jusqu'au retour de Jésus-Christ, avec la nouvelle création. Et donc, dans toute cette phase dans laquelle on est, on l'appelle des fois la période de l'Église, le Saint-Esprit va appliquer aux croyants le salut que Jésus-Christ nous a acquis à la croix de Golgotha. Et donc on est dans cette période-là, le Seigneur a dit, cette période-là, mon retour, ce n'est pas à vous de savoir, ce ne sera pas maintenant. Eux, ils pensaient que le retour du Seigneur serait pour tout de suite. Est-ce qu'en ce moment-là que tu vas rétablir? Non. Non, mais vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, nous avons vu le début du livre des actes ici, où le salut a été proclamé à Jérusalem. Donc, on est situé ici, dans cette période-là. Et il y a la frise biblique ici qui se termine à la fin du départ des apôtres. Et après, ce travail d'évangélisation s'est poursuivi et se poursuit encore dans le monde entier jusqu'au retour de Jésus. C'est le prochain acte, la prochaine étape du plan de salut de l'humanité. Ce plan de salut, c'est aussi le récit du salut de chacun d'entre nous. Nous sommes des êtres qui sont créés, mais qui sont déchus. Abîmés, l'homme est abîmé par le péché, tous les hommes sont abîmés, sont corrompus par le péché, et on a tous besoin d'un rédempteur, d'une rédemption personnelle dans nos vies. Et il y a l'accomplissement de ce salut dans la vie de chacun quand une personne se convertit ici, qu'elle accueille ce roi de gloire dans sa vie, dans son cœur, qu'elle accueille ce roi de gloire, commence une longue transformation, de pénétration et de bouleversement que produit l'Évangile dans la vie, jusqu'à ce que ce soit la rencontre avec Jésus lorsque l'on meurt ou lorsque, si le Seigneur revient avant, autrement, jusqu'à la fin et l'entrée dans le paradis. Donc on a appris également dans notre texte que Israël en fait n'a pas reconnu son Messie, et donc Israël va rester endurci pendant tout le temps du livre des actes. Et nous sommes pleinement investis d'une mission. Dans les temps de la foi, nous avons un rôle à jouer. Nous ne sommes pas spectateurs de ce plan, là c'est représenté comme une pièce de théâtre, mais on a un rôle à jouer, on est acteur dedans, on a Dieu à quelque chose pour nous, et comme on le voit ici, cette grande mission qui est confiée aux disciples et aux apôtres. On a vu également qu'il était incité sur les 12 apôtres. les 12 apôtres ont un rôle central de témoin. Ils ont aussi un rôle central d'autorité. Ce sont eux qui donnent l'exemple du témoignage et ce sont eux également qui vont dénouer les crises qui vont traverser la jeune église de Jérusalem. Ils ont un rôle central de témoin, ce sont eux qui sont en première ligne, ils ont un rôle central également d'autorité, d'enseignement dans l'église de Jérusalem, une autorité collégiale. On voit qu'ils sont 12. Et donc, ce sont des. On a également à travers eux le modèle de la façon dont ils rentrent dans la prophétie. Ils rentrent dans la prophétie quand ils choisissent qu'ils s'aperçoivent, ils sont que 11, il en manque un, et ils choisissent de désigner avec l'aide de Dieu celui qui doit remplacer Judas. Quand ils ont lu les textes d'imprécation qui concernent Judas, il fallait absolument qu'il soit remplacé. Ils ont choisi Matthias. Et il rentre quelque part dans la prophétie et nous aussi, nous sommes invités à avoir un rôle actif dans toute cette période qui est ouverte, la période de l'Église. Les 12 apôtres ont une mission, objectif monde, hein, c'est d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Ils assurent le rôle public, les apôtres, ils sont en première ligne, mais l'Église tout entière joue un rôle, elle prie, elle est présente en seconde ligne, on pourrait dire. Et on voit également que le travail d'évangélisation se fait aussi à travers la vie de chaque croyant. La diffusion de l'Évangile se fait par la prédication, mais aussi par le témoignage de toute l'Église, de la façon dont il porte ce témoignage à la face de tout Jérusalem à l'époque. Il n'y a pas seulement que le rôle des 11, mais il y a le rôle de toute l'Église dans cette grande mission. Pour eux, c'était premièrement Jérusalem. La deuxième partie, le baptême du Saint-Esprit est accordé par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Je voudrais vous relire le texte clé, on peut le relire ensemble. Actes chapitre 2, verset 1. À 41, on va faire une coupe en deux, 1 à 4, premièrement. Chapitre 2, verset 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même endroit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Plus loin, au verset 32, le discours de Pierre, la fin du discours, lorsqu'il parle, il se mit à parler à tous ceux qui étaient là, qui étaient accourus à cause du bruit. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. David en effet n'est pas monté au ciel mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Changez d'attitude, ou bien repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Le baptême du Saint-Esprit est accordé par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, ici, on voit ce vent, cette image du feu. Également, on dit que Jésus a dit qu'une personne née de l'Esprit, on ne savait d'où il vient ni où il va, un petit peu comme le vent qu'on ne voit pas, mais on en voit et on en perçoit parfaitement les effets autour de nous. Le Saint-Esprit, une puissance qui donne du courage, qui réalise des signes miraculeux par les mains des apôtres, et qui également, Jésus a enseigné cela dans la chambre haute, qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. C'est lui donc qui applique ce salut. On a vu également que ce Saint-Esprit était une personne. C'est une personne. Dans l'épisode de Ananias et Saphira, c'est très clair. On voit que le Saint-Esprit est une personne. Ananias et Saphira avaient menti au Saint-Esprit. Ils avaient menti à Dieu. Et quelque chose d'extraordinaire. Le Saint-Esprit donc vient habiter le croyant pour le remplir. C'est quelque chose qui n'existait pas avant, qui est spécifique à la Nouvelle Alliance, parce que Jésus-Christ est venu accomplir le salut et qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il soit dans ceux qui croiront en Jésus-Christ. Pierre parle chaque fois de la repentance et de la foi dans Jésus-Christ ressuscité. Le don est accordé par la repentance personnelle, reconnaître son péché devant Dieu et décider d'y renoncer, décider de s'en détourner, le reconnaître pour ce qu'il est. Et le Saint-Esprit agit dans les cœurs des hommes pour amener les personnes à la repentance. Le don du Saint-Esprit est accordé également par la foi dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est le Messie qui est juif et qui est Jésus de Nazareth. Alors, il n'avait pas de problème pour avoir placé la... Quand ce qui concerne la mort, c'était clair pour tout le monde que Jésus-Christ était mort à ce moment-là, mais il fallait qu'ils placent leur confiance dans la résurrection maintenant de Jésus-Christ, croire que Jésus avait été ressuscité des morts et que c'était lui. Donc, par conséquent, c'était lui le Messie qui était annoncé parce qu'il était ressuscité des morts. Le mot Messie, Christ, est riche de sens. On n'a pas besoin de tout savoir sur lui pour se convertir, mais on a besoin d'aller à lui, d'aller à Jésus, parce que c'est une personne. C'est une personne. Alors, il y a beaucoup de religions qui manquent la foi dans la mort, dans la résurrection de Jésus-Christ. Soit on va dire, ah ben non, il n'est pas mort sur la croix, en fait, c'était quelqu'un d'autre. Ou soit il est mort, mais il n'est pas ressuscité. La mort et la résurrection de Jésus-Christ pour le péché, c'est lui la victime expiatoire. Et c'était la foi dans le sang qui a coulé à la croix, dans lequel on place sa foi pour recevoir le pardon de Dieu. On a besoin d'aller à Jésus-Christ. La repentance et la foi en Jésus-Christ ressuscité, c'est une vérité centrale. Qu'est-ce qui fait que l'on est chrétien? On est chrétien quand on a reçu le Saint-Esprit. C'est ce qui fait le chrétien. Un chrétien, c'est d'avoir reçu le Saint-Esprit, d'avoir l'Esprit de Christ en lui. Chrétien, ça veut dire petit Christ. Donc, d'avoir l'Esprit Saint en lui. Et comment on reçoit le Saint-Esprit? Par la repentance, dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors, il est question de baptême, le baptême d'eau. Quel est le sens de ce baptême d'eau? Eh bien, ça, d'être reconnu publiquement comme chrétien par le témoignage qu'on rend de sa mort et de sa résurrection. Le témoignage public. Vous serez mes témoins. Et la première chose, chose qui montre qu'on est témoin de Jésus-Christ, eh bien, c'est de témoigner. Et l'occasion de le faire publiquement devant l'Église, ça fait la reconnaissance. Voilà, un chrétien. Voilà quelqu'un qui est chrétien. Comme c'est le baptême d'eau n'est là que pour attester cette chose-là qui a eu lieu. Hein. Attester publiquement. Alors, vous savez, l'Église catholique romaine a fait une grave erreur en enseignant, et l'enseigne toujours, elle enseigne encore que le fait d'être baptisé en étant un petit bébé, un nourrisson, voilà, on reçoit à ce moment-là le Saint-Esprit, à ce moment-là, on fait partie de la famille de Dieu. Et c'est une grave erreur parce que ça laisse croire qu'on grandit avec cette pensée, ben oui, voilà, je suis enfant de Dieu, j'ai rencontré l'Esprit Saint. Et comment c'est le problème n'ayant pas l'Esprit de Jésus, Jésus reste pour les personnes un étranger, reste quelqu'un qui est éloigné de Dieu, qui fait peur. C'est le Seigneur, c'est celui qui va juger les vivants et les morts. Et donc, qu'est-ce que vont faire les personnes? Elles vont se chercher des intermédiaires par rapport à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, elles ne sont pas personnellement venues à lui. Et elles n'ont pas fait cette rencontre personnelle avec lui, donc elles en ont peur. Et c'est là où on met en place le culte de Marie, par exemple, le culte de sa mère, pour faire un intermédiaire. Alors que c'est lui seul qui est l'intermédiaire envers Dieu. Donc c'est quelque chose qui est fondamental ici. Ce qui fait que l'on est un chrétien, c'est parce qu'on a le Saint-Esprit. Ce qui fait qu'on a le Saint-Esprit, c'est parce qu'on se repent et qu'on va vers Jésus pour recevoir, qu'on a foi en lui et de croire en lui et de recevoir le pardon de ses fautes. Et on reçoit le Saint-Esprit pour nous. La croissance de l'Évangile par la prédication de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est marquant dans tous ces passages. Je reprends un autre discours de Pierre un peu plus loin, chapitre 3, verset 17. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs, mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Changez donc d'attitude. Convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors les temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche des saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous parmi vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu de peuple. Verset 24. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel, ses successeurs, ont annoncé ces jours-là. Vous êtes les héritiers des prophètes de l'ancienne alliance que Dieu a conclue, que Dieu a conclue avec vos ancêtres en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus, il l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Plus loin, Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant des gardes du temple et les sadducéens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et enseignaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent. Et comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. L'annonce publique de l'Évangile. L'Évangile est annoncé publiquement et clairement. Certainement, il y a des annonces qui sont faites dans le privé en tant que témoins de Jésus-Christ. Les disciples parlaient autour d'eux de l'Évangile, mais il y avait une annonce publique. Quelque chose qui était clair, voilà l'Évangile de Jésus-Christ officiellement. C'est cet Évangile-là qui sonne, c'est celle qui est proclamée officiellement, publiquement, à haute voix par les apôtres, les 12 apôtres de Jésus-Christ. Et on voit la place claire de la parole de Dieu dans toutes ces prédications, tous ces messages que Pierre donnait. Il s'appuyait complètement sur l'ancienne alliance, sur tout ce que contenaient les Écritures. Il y a une parfaite continuité entre l'ancienne et la nouvelle alliance, et la prédication de l'Évangile repose sur la parole de Dieu, sur la parole de Dieu, sur la Bible. C'est ce qui fait sa spécificité et c'est cette annonce publique qui fait avancer et croître l'Évangile. Une avancée irrésistible, on la voit, malgré les emprisonnements, les menaces, les coups, les apôtres ne vont pas se taire. L'Évangile progresse et on retrouve ce refrain de la progression de l'Évangile dans tout le livre des Actes et tout particulièrement, on l'a lu ici. Et on le voit également à la fin de la section qu'on a considérée. La place de la croissance de l'Évangile par la prédication de la parole de Dieu. Et regardons un petit peu maintenant l'unité et le service face aux dangers internes et externes, qui est un autre enseignement de cette section. Chapitre 2, je reviens un peu en arrière pour ce très beau passage, chapitre 2, verset 42. Donc, tous ces croyants qui s'étaient joints à l'Église persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges, de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le fonctionnement habituel de l'Église de Jérusalem était décrit ici. Le prototype de l'Église, ce qui a été fait dès le commencement et qui sert de modèle pour toutes les Églises, à quelques détails près. Chapitre 5, verset 41. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le Messie. Chapitre 6, verset 1, passage de la semaine dernière. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors de la distribution quotidienne. Les 12 apôtres convainquèrent l'ensemble des disciples et dirent : il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, rempli d'Esprit Saint, de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer au ministère de la prière et de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, homme plein de foi, d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la loi. L'unité.
À la foi.
À la foi, pardon. Merci. L'unité qui apparaît ici, l'église de Jérusalem, donne l'image de l'unité. Il y a un seul esprit, il y a un seul enseignement, il y a une seule foi. Ils se retrouvent ensemble, ils prient et prennent la scène ensemble. Et lorsqu'il y a des décisions à prendre, ils les prennent ensemble. On voit les dangers, on a vu les dangers. L'opposition vient de l'extérieur, les autorités politiques et religieuses qui sont les plus dangereuses des oppositions, c'est ceux qui ont le pouvoir. Dans toute l'histoire de l'Église, chaque fois que le pouvoir civil, politique, sur politique ou religieux, la persécution vient de là, c'est là où c'est le plus terrible, le plus grave. Mais les dangers viennent aussi de l'intérieur. On a vu que les chrétiens ne sont pas pour autant des gens parfaits. Il peut y avoir le mensonge, il peut y avoir l'hypocrisie, il peut y avoir le favoritisme, il peut y avoir la critique, la murmure. Et tout cela va rompre l'unité de l'Église si on n'y prend pas garde. Mais Dieu protège son Église en la purifiant. Dans l'affaire de Ananias et Saphira, on a vu comment Dieu a purifié son Église autoritairement. Et également, d'une autre manière, dans le cas de la distribution des repas ici, en organisant le service toujours garder la crainte de Dieu. L'organisation du service de l'Église est importante pour sa croissance. On l'a vu la semaine dernière. Et le service, donc, unité et service, c'est les deux mots qui vont bien pour nous, pour les croyants, être unis. Et pourquoi le service? Parce que Jésus-Christ est appelé, le chef de l'Église est appelé le serviteur de l'Éternel. Dans tous ces passages, il est présenté comme le serviteur de l'Éternel. Et le serviteur de l'Éternel, si lui est serviteur de l'Éternel, nous aussi, nous, tous les chrétiens, sont des serviteurs. L'Église qui appartient à Jésus, on dit qu'elle fonctionne selon l'économie du don. On partage les ressources, on se rend service les uns aux autres, on organise en visant au bien commun et on est obéissant à ce qui concerne l'évangélisation. Jésus a dit, le Fils de l'homme, donc lui-même, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. De la même manière, les chrétiens donc ne cherchent pas leur bien-être personnel, ils ne cherchent pas leur bien-être personnel, mais ils s'épanouissent en servant Dieu et en servant leur prochain. Ils s'épanouissent en servant Dieu et en servant leur prochain. Ça fait partie de l'ADN, l'unité et le service. Ça fait partie de l'ADN que place le Saint-Esprit dans le croyant et dans son Église. Alors, pour Figeac, ben, moi je vois des fondamentaux, la foi personnelle, c'est toujours la foi personnelle dont nous avons besoin, toujours cette repentance personnelle, toujours aller vers une personne, vers Jésus-Christ, c'est vers lui, c'est au pied de la croix qu'on trouve le salut, c'est au pied de la croix que l'on revient à lui. Lui portant nos fautes, nos péchés, et en croyant que là, sur le bois de Golgotha, il a pris sur lui la faute, la conséquence de notre péché, donc cette séparation que cela produit avec Dieu. Pour nous également, l'unité et le service, l'unité de l'Église, quelque chose qui est fondamental, et si nous sommes unis, c'est le signe que nous nous aimons, et si nous servons les uns les autres, c'est le signe également que nous nous aimons, les choses très, très concrètes et les choses qui sont produites par le Saint-Esprit dans nos vies. Donc ne pas nous lasser de faire le bien, comme le rappelle l'apôtre Paul, par ailleurs, il n'y a qu'un seul Esprit, il n'y a qu'un seul baptême, il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul Dieu et Père. Donc, soyons, restons unis, veillons à notre unité. C'est le Saint-Esprit qui crée cette unité-là, il n'y a pas besoin de l'inventer, mais il faut rester toujours sensible à ce que nous montre et à ce que nous indique le Saint-Esprit. L'évangélisation, si on ne rentre pas dans le plan de Dieu pour la croissance et le salut de la diffusion de l'Évangile dans le monde entier, ben là, on fait pas ce pourquoi on est là. On a une mission. Et on doit rentrer dedans et on doit s'en approprier sérieusement. C'est ainsi que notre église locale va grandir. Si on arrête d'évangéliser, l'église va se ratatiner, elle va se scléroser, parce que sa mission, c'est de porter d'une manière ou d'une autre. Il y a tellement de façons de participer à ce grand plan de salut. On a évoqué tellement de possibilités, rien que dans ce qui est devant nous, pour la semaine prochaine, vendredi, pour la venue de Françoise Pédot, la venue du messager de la paix, dont on peut prier, on peut faire des dons, on peut soutenir, et on peut encourager, et on peut être en seconde ligne, ou on peut être en première ligne, et on peut prier, demander au Seigneur qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, avoir le cœur à cela, à ce grand service de témoin. La vie chrétienne, c'est la vie de témoin. Je rajouterai un point particulier qui n'est pas très saillant. Peut-être dans notre texte, on ne l'a pas beaucoup souligné quand on a fait tout le balayage, les prédications. Ça concerne la question de l'autorité. L'autorité qu'avaient ces 12 apôtres sur l'Église. Ils avaient l'autorité. Jésus-Christ leur avait clairement donné l'autorité. C'était une autorité collégiale et ça marchait tout seul dans l'Église avec cette autorité qui était mise en place. Voilà, chaque fois, il y avait des problèmes, il y avait les apôtres qui étaient là et qui ont, conduit par le Saint-Esprit, qui ont trouvé les solutions pour l'Église. Le problème de l'autorité est un problème contemporain que nous avons dans notre monde et qui infuse dans l'Église. Hein. On dit qu'on a fait des élections la semaine dernière et la semaine d'avant, et voilà, déjà il y a des contestations du conseil municipal ou quoi d'autre. Notre société a un vrai problème avec l'autorité dans un sens. On ne veut pas l'autorité. Et d'autres fois, et dans d'autres régions du monde, c'est l'inverse. Les autorités sont trop autoritaires. Et donc, c'est un sujet qui est important pour l'Église d'aujourd'hui. Et donc, on va développer ça un petit peu après Pâques. Le sujet de l'autorité, on aura l'occasion de revenir là-dessus, de voir comment l'autorité que Dieu a prévue, on la voit ici à l'œuvre, à travers l'Église, mais c'est partout la même chose, comment cette autorité est une bénédiction pour l'Église, pour l'accomplissement du plan de Dieu, pour la bénédiction de chaque le bien-être de chaque chrétien. Il y a un rôle que l'autorité joue pour cela. C'est une bénédiction, c'est prévu par Dieu. Et donc, je ne veux pas trop anticiper, mais on verra cela, combien c'est chouette ce que Dieu a prévu là. Voilà. Je vais m'arrêter là. Seigneur, merci pour cette première église de Jérusalem. Merci pour l'exemple qu'elle nous laisse, pour les traces qu'elle a, ce qu'elle a tracé. Merci pour l'Esprit Saint qui l'a animé. Merci pour tous ces manifestations de l'Esprit Saint pour attester la parole des apôtres. Seigneur, nous vivons dans des temps qui sont différents. L'autorité des apôtres n'est plus là. Mais nous avons ta parole, nous avons tous ces textes qui sont bien expliqués, et c'est ta parole que nous voulons suivre, c'est ta parole, sur ta parole que nous voulons fonder notre vie, notre foi, pour avancer et pour trouver faveur et grâce auprès de notre Dieu. Merci de nous garder unis, merci de nous garder attentifs les uns aux autres, pleins d'affection, nous servant les uns aux autres, servant notre prochain, et comme on le chante, en servant les autres, c'est toi premièrement que nous servons. Merci pour les possibilités que nous avons également de rentrer à travers ce travail d'évangélisation, les petits livres qu'on a achetés. Ne nous laisse pas en repos en ce qui concerne l'évangélisation, ne nous laisse pas nous endormir sur ce travail-là, mais au contraire, que nous puissions y trouver de la joie et pas du stress, et vraiment de la joie et un grand épanouissement dans nos vies. Merci. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.